De toute évidence, le christianisme traditionnel traverse une crise d'identité. De nombreux individus, prétendument chrétiens, ne savent pas trop à quoi sert leur Église et quel est son rôle dans leur vie. Certains tentent simplement de s'attacher le plus possible à des traditions confortables du passé. D'autres sont en quête d'une expérience authentique et stimulante. Certains recherchent des guérisons et du bien-être. Mais quel est au juste le but de l'Église? Beaucoup de gens, déçus et désenchantés par les Églises et les religions organisées, cherchent des réponses un peu partout. Pour eux, la religion est désormais largement dépassée parce que leur Église n'a pas d'identité ou de rôle défini. Rares sont ceux qui se tournent désormais vers Dieu ou vers leur confession religieuse pour obtenir de l'aide concernant des décisions importantes à prendre ou au sujet de leurs problèmes personnels ou moraux. Nous vivons dans un monde où c'est la spiritualité individuelle qui devient la norme. Pourquoi les églises du monde sont-elles dans cet état de confusion? Pourquoi tant de gens restent-ils sans réponse satisfaisante à leurs questions? Quel est le but fondamental de l'Église? Pour quelles raisons et dans quel but le Christ a-t-il fondé son Église lorsqu'il est venu sur terre il y a 2000 ans? La réponse à ces questions a un lien direct avec l'avenir de notre monde et un lien direct avec chacun de nous personnellement. Restez à l'écoute. Salut à vous. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'a laissé aucune place au doute au sujet de ce que son Église devait accomplir et qu'elle s'appliquerait à accomplir. Il l'a fondée et a dit qu'elle existerait toujours. Il a déclaré à l'apôtre Pierre dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, un petit caillou, et que sur ce roc, sur lui-même, le grand rocher, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a donc prédit que son Église, même petite et persécutée, ne serait jamais détruite, et qu'elle serait encore présente et active sur la scène mondiale à la fin des temps. Quel est le rôle de cette Église? Quelle est sa mission? Jésus lui-même nous donne la réponse. Notez sa déclaration. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus annonçait une très bonne nouvelle, l'établissement futur sur la terre de son royaume, de son gouvernement de justice et de paix, lequel mettra fin aux misères humaines, aux injustices et aux guerres. Cette bonne nouvelle comprenait un deuxième élément, la repentance. Le fait que nous devons changer, cesser de transgresser les lois divines pour vivre selon ses enseignements, ce qui sera la marque de commerce du monde de demain. En fait, en prêchant l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le Christ annonçait d'avance son propre règne qui aura lieu sur la terre. De plus, les Écritures nous montrent clairement que le Christ sera assisté dans sa tâche par ceux qui, aujourd'hui, sont appelés par Dieu, qui s'appliquent à vivre dès maintenant selon ses lois et qui accompliront jusqu'au bout la mission de l'Église. Ces fidèles serviteurs de Dieu sont appelés ses saints, c'est-à-dire ceux qui sont sanctifiés, mis à part dans un but précis. Le plan de Dieu a été établi depuis très longtemps. Il n'a jamais changé. Et les diverses étapes de ce plan sont annoncées dans les écrits des prophètes. Le règne des saints, sous l'autorité du Messie, avait été compris et annoncé par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Selon la vision reçue de Dieu, le prophète décrit d'abord l'intronisation future du Christ. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Puis, nous voyons un peu plus loin le rôle qui sera confié à ceux qui, aujourd'hui, acceptent de soumettre leur vie au Créateur et d'accomplir son œuvre. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Beaucoup de ceux qui ont entendu la prédication de Jésus ont cru à son règne futur. Et la plupart de ses disciples étaient si enthousiastes qu'ils pensaient que ce royaume serait établi de leur vivant. Acte 1, versets 6 à 8 déclare. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Par cette déclaration, le Christ indiquait que le message concernant son gouvernement mondial à venir devrait d'abord être annoncé sur toute la terre, ce qui ne serait possible qu'à notre époque. Grâce à la technologie moderne, nous pouvons présentement rendre ce message disponible partout dans le monde. Non pas pour convertir les gens, mais pour leur donner le témoignage de ce qui vient et leur montrer comment réagir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tel qu'annoncé, le monde misérable et confus où nous vivons tire à sa fin. Il sera remplacé par une société tout à fait différente, heureuse et paisible, sous la gouverne du Christ et de ses saints. Dieu n'a pas abandonné l'humanité.
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite sans aucune obligation de votre part. Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours? Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant.
De nos jours, cette vérité prophétisée du règne millénaire du Christ est malheureusement ignorée par la majorité de ceux qui se disent chrétiens. Pourtant, les premiers chrétiens connaissaient cette réalité et ils étaient fortement motivés par l'espoir du retour du Christ. Toutefois, cette vérité fut graduellement diluée, puis même rejetée, comme l'explique l'historien Edward Gibbon. Dans l'Église primitive, il était universellement admis que la fin du monde et le royaume des cieux étaient à portée de main. La doctrine du règne du Christ sur la terre fut d'abord considérée comme une allégorie pleine de signification. Elle fut par la suite traitée progressivement comme une opinion douteuse et inutile. Finalement, elle fut rejetée comme une invention absurde imaginée par des hérétiques et des fanatiques. La croyance au règne millénaire du Christ s'est donc perdue au fil des siècles. De nos jours, cette vérité prophétisée reste ignorée par la majorité du monde chrétien. Le christianisme moderne met plutôt l'accent sur diverses formes d'activisme social, dans l'espoir que les humains puissent créer un monde meilleur. La triste histoire de l'humanité prouve le contraire. C'est un espoir vain, c'est un faux évangile, car la solution aux problèmes mondiaux ne viendra pas des humains. Elle ne pourra venir que de Dieu lui-même qui établira son royaume sur la terre et changera le cœur des humains afin qu'ils vivent enfin en paix et soient heureux. Dans Zacharie 8, versets 3 à 5, Dieu a inspiré son prophète de décrire la vie paisible du monde de demain qui est juste devant nous. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Voilà donc le message de l'Évangile que nous avons la responsabilité d'annoncer, cette ère nouvelle qui se profile à l'horizon. Comme l'apôtre Paul le mentionne, nous agissons en tant qu'ambassadeurs du Christ et ambassadeurs de cette nouvelle civilisation, de cette nouvelle administration qui approche. Jésus a déclaré, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. C'est pourquoi, tout en respectant les dirigeants et les lois de leur pays, les serviteurs de Dieu ne se mêlent pas de politique. Comme nous pouvons le lire dans les Évangiles, le Christ a guéri des malades, a ressuscité des morts et a secouru des opprimés. Et il a enseigné à ses disciples à faire de même. Mais notez que sa mission ne se limitait pas à guérir. Elle consistait à annoncer le royaume de Dieu. Un jour de sabbat, lorsque le Christ faisait la lecture du livre d'Ésaïe dans la synagogue, il s'arrêta au milieu du récit. Il venait de lire une prophétie annonçant sa présence d'alors et le message qu'il était venu apporter. En ne poursuivant pas la lecture de ce passage, il montrait que la suite de la prophétie d'Ésaïe s'accomplirait au cours du millénium, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur notre planète. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, versets 16 à 18. Dans sa prophétie, Ésaïe annonçait que le Messie proclamerait aussi un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ésaïe parlait ici du retour du Christ et du processus de reconstruction qui commencera dès l'établissement de son royaume sur la terre. Cette époque n'est pas encore arrivée. Le règne millénaire de Jésus-Christ inaugurera une ère de prospérité sans précédent, qui apportera le bien-être et l'aide nécessaire à tous ceux qui sont opprimés et laissés pour compte. Ézéchiel a décrit lui aussi avec enthousiasme cette période du règne du Christ. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le Christ a commandé à ses disciples d'aller de par le monde et de prêcher l'Évangile de ce royaume de Dieu. Cette proclamation doit se poursuivre jusqu'au moment de son retour. Il savait que la majorité des gens ne réagiraient pas et que le message qu'ils entendraient ne serait pour eux qu'un témoignage des événements à venir. D'autre part, il a aussi appelé ses disciples à baptiser ceux qui souhaiteraient se repentir, ceux qui prendraient garde à son message et y donneraient suite. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens lorsqu'ils lisent la description de ce que sera le millénium, en concluent qu'il leur appartient de devenir non seulement des individus socialement actifs, mais encore politiquement actifs, afin de faire progresser un idéal social et moral auquel ils croient et qui serait une transposition en ce monde des conditions qui régneront au cours du millénium. Mais Jésus veut-il vraiment que son peuple tente de stabiliser le monde actuel? N'a-t-il pas plutôt dit qu'il fallait, en priorité, proclamer son message et préparer les gens pour le monde de demain en propageant la bonne nouvelle de son royaume? Comme l'apôtre Paul le mentionne, nous agissons en tant qu'ambassadeurs du Christ, en tant que représentants de cette nouvelle civilisation, de cette nouvelle administration qui approche. C'est pourquoi, tout en respectant les dirigeants et les lois de leur pays, les serviteurs de Dieu ne se mêlent pas de politique. La véritable Église de Dieu ne s'implique aucunement en politique. Par contre, elle doit proclamer activement l'ère nouvelle qui se profile à l'horizon. Bien entendu, il y aura toujours des gens qui tenteront, au nom de leur religion, d'influencer des rois et des nations. Les prophéties bibliques révèlent même qu'une importante fausse Église s'associera à une grande organisation politique en Europe, l'Empire romain ressuscité, pour s'opposer à Dieu et conduire l'humanité au seuil de l'anéantissement. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, les nations. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Cette prostituée, ou cette fausse Église, fera partie d'un puissant système Église-État qui combattra le Christ à son retour. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les nations en colère s'opposeront au Christ, avec toute leur puissance militaire moderne réunie, mais en vain. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ce conflit aura lieu au cours d'une époque de guerre que la Bible appelle le jour du Seigneur. À ce moment-là, toute vie sera sur le point de disparaître de la surface terrestre. C'est pourquoi, avant que l'humanité entière ne soit détruite, Jésus-Christ reviendra, comme il l'a promis dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il ne fait aucun doute que le Christ nous demande d'aimer notre prochain et de faire du bien chaque fois que nous le pouvons, chaque fois que l'occasion se présente. Mais la mission de l'Église consiste à faire l'œuvre de Dieu et non pas à transformer ce monde à l'heure actuelle. Un tout nouveau monde nous attend.
Pour en savoir davantage sur les caractéristiques qui identifient la véritable Église de Dieu, demandez notre brochure gratuite Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours? Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain. Celle-ci vous fournira des informations pertinentes relativement au but de l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
L'Église que Jésus-Christ a fondée doit suivre son exemple en proclamant le véritable Évangile au monde. Elle doit s'attacher à sa mission, qui consiste à proclamer la bonne nouvelle de l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. Pour quelle raison la plupart des églises, aujourd'hui, ne comprennent-elles pas la venue du royaume du Christ? Parce qu'elles laissent de côté et considèrent obsolètes les jours saints bibliques décrétés par Dieu et qui doivent être célébrés de tout temps. Jésus-Christ et ses apôtres les ont observés. Ces jours illustrent les étapes du plan divin pour l'humanité, y compris l'événement du retour du Christ pour établir son royaume. Ceux qui observent ces jours saints peuvent réellement comprendre leur signification. L'Église de Dieu observe chaque année la fête des trompettes, par exemple. Cette fête préfigure le retour triomphant du Christ à la dernière trompette. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Encore aujourd'hui, l'Église de Dieu continue à observer les fêtes divines, lesquelles sont des sabbats annuels. Il en est de même pour le sabbat hebdomadaire, le septième jour de la semaine, dont l'observance constitue le quatrième des commandements de Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est l'un des principaux signes identifiant ceux qui appartiennent à Dieu et qui mettent ses lois en pratique. De plus, le sabbat préfigure le grand sabbat millénaire qui approche, soit le premier mille ans du règne du Christ sur la terre. Actuellement, la majorité de ceux qui se prétendent chrétiens pensent que les sabbats ont été abolis, alors qu'ils n'ont jamais été supprimés, ni par le Christ, ni par ses apôtres. En fait, les Écritures montrent qu'après le retour du Christ, tous les habitants de la terre commenceront à observer les fêtes divines, dont la fête des tabernacles. Le prophète parle ici des survivants de la Grande Détresse et de la Troisième Guerre mondiale. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le Christ n'a pas seulement prêché l'établissement de son gouvernement sur la terre, il a également déclaré que nous devons nous repentir, c'est-à-dire regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu et changer. C'est pourquoi ses disciples ont toujours enseigné qu'il nous faut abandonner nos voies mauvaises et vivre selon ses enseignements. Le sermon de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, était également fondé sur l'importance du repentir. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Beaucoup de gens sincères continuent d'être dans la confusion en ce qui concerne le péché et la repentance. Plusieurs églises du monde enseignent même que la loi divine est abolie, ou elles ont tout simplement éliminé le vrai sabbat, comme si un tel christianisme, à la carte, pouvait plaire à Dieu. Voyez ce que le Christ a déclaré dans Matthieu 5, versets 17 et 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La Bible nous dit que le péché est la transgression de cette loi que Dieu a donnée aux humains afin qu'ils soient heureux et qu'ils vivent. Se repentir signifie simplement changer de mentalité et de conduite pour conformer notre vie de plus en plus aux enseignements du Christ. Avec son aide, on peut y arriver. Il faut demander au Tout-Puissant de nous donner la repentance et la force de vivre selon ses enseignements. Il a déclaré que si quelqu'un veut faire un jour partie de son royaume et recevoir la vie éternelle, il lui faut observer les commandements. En cette période chaotique où tout change rapidement, soyez assurés que la véritable Église de Dieu, fondée par Jésus-Christ, accomplira sa mission jusqu'à ce qu'il revienne. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cette mission consiste à proclamer au monde la bonne nouvelle de l'établissement prochain du royaume de Jésus-Christ sur la terre. L'Église doit également avertir les gens avec force et clarté des grands bouleversements qui approchent, les appeler à la repentance et au changement spirituel. Comme le prophète Ésaïe l'a écrit, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Voilà ce que l'Église, fondée par le Christ, continuera de faire en ces temps de la fin, tout comme elle l'a fait depuis le tout début. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain ». Qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.